Bienvenue dans une nouvelle émission du podcast de l'école de Quimère. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir Irène Frachon, une pneumologue brestoise. Son engagement a eu un impact majeur sur la sécurité des patients.
Dans cette émission, nous lui poserons des questions sur son parcours professionnel, sa discipline, la pneumologie et son implication dans la révélation du scandale du Mediator.
Prêt à découvrir le parcours d'Irène Frachon ? Restez avec nous pour cette émission enregistrée dans les studios de Transistor.
Bonjour Irène Frachon !
Bonjour les enfants !
Débutons cette émission par connaître un peu plus votre parcours. Pourquoi avez-vous voulu devenir médecin ?
Alors, parce que quand j'étais petite, on m'avait parlé de l'histoire de médecins. On m'avait raconté l'histoire de médecins qui s'étaient engagés, ce qu'on appelle dans des causes humanitaires, pour aller soigner des gens qui n'avaient pas accès à la médecine. Et je trouvais ça formidable. Et je me suis dit, bon, ça a l'air d'être bien comme métier.
C'est quoi la pneumologie ? En quoi consiste votre métier ?
Alors, c'est une très bonne question. Ça, déjà, pneumologie, tu l'as bien prononcé, bravo. Parce qu'il y a plein d'adultes qui ils n'y arrivent pas. Donc, tu as très bien réussi. Alors, c'est pour parler des poumons. Alors, je ne pensais pas devenir pneumologue. Simplement, j'ai fait des études de médecine, donc, puisque j'avais décidé d'être médecin, parce que je trouvais vraiment que l'exemple de ces grands médecins me donnait envie de devenir médecin à mon tour, même si je trouvais que ça faisait un peu peur, quand même, d'être médecin. J'ai fait des études, et puis au cours de mes études, j'ai fait des stages. Et puis à un moment donné, j'étais dans un stage de pneumologie qui s'occupait des maladies du poumon et où les médecins faisaient des opérations que je trouvais formidables, ce qu'on appelle de greffe de poumon, c'est-à-dire que des gens qui avaient des poumons très abîmés, eh ben, on leur proposait ce qui s'appelle une greffe d'organes, qui est une opération très compliquée, et après, ils allaient beaucoup mieux. Et à l'époque, on m'a dit, si ça t'intéresse, ce sujet-là, tu peux devenir un peu spécialiste de ces questions-là. Et donc, voilà comment j'ai choisi. Au départ, la pneumologie, c'était d'abord pour m'occuper de la question des greffes d'organes et des greffes de poumons.
Quelle formation faut-il suivre pour devenir pneumologue ?
Alors, il faut faire en fait une formation de médecin, c'est-à-dire intégrer des études de médecine. Ça, c'est compliqué parce qu'il y a des concours d'entrée qui sont très sélectifs et très pénibles. Et d'ailleurs, ces concours sont trop sélectifs puisqu'on manque de médecins. Donc, il y a vraiment un petit problème à ce niveau-là. Donc, il faut beaucoup travailler et surtout beaucoup apprendre par cœur. Et c'est assez pénible, pour être très honnête. Et une fois qu'on a passé ces concours, eh ben, on suit des études qui durent longtemps. On fait d'abord 4 ans, 5 ans, 6 ans d'études, parce qu'il faut étudier toutes les spécialités. On ne peut pas dire juste je vais faire de la pneumologie et j'apprends que la pneumologie. En fait, on apprend un peu tout. Alors, c'est très long et puis on voit beaucoup de choses, on fait des stages, on commence à être en contact avec des malades à partir de la 3e, 4e année de médecine. Et donc, c'est pas seulement des connaissances théoriques, il faut aussi commencer à avoir un contact avec les malades et comprendre comment on examine quelqu'un qui a une maladie, comment on écoute ce dont il se plaint, et puis quel traitement on peut proposer. Donc tout ça, ça va ensemble. Et au bout de la 6e année, il faut faire un choix de spécialité. Soit on peut être médecin généraliste, ou alors choisir une médecine d'un organe. Et c'est comme ça que j'ai choisi la médecine d'organe du poumon, après avoir passé un autre concours, parce qu'il y avait ce stage qui m'avait marqué, pour notamment m'intéresser à la greffe d'organes.
Quel conseil donnerez-vous à des enfants qui souhaitent devenir médecin ou travailler dans le domaine de la santé ?
Je crois que il faut garder en fait ça. Quand on est enfant, je pense que on trouve que c'est très important de s'occuper des autres et de la santé des autres, et que quand on voit les gens qui ont des maladies ou qui souffrent, on trouve ça très dur et on voudrait que les gens aillent mieux. Et que cette idée-là, il faut qu'elle reste l'idée prioritaire. C'est-à-dire que vraiment, de vouloir être médecin, ou vouloir être infirmière, ou vouloir être aide-soignant, il y a plein de métiers de la santé possibles. C'est d'abord être touché par la maladie des autres, et se dire qu'on va essayer de les soigner et d'améliorer un petit peu leurs conditions. Et ça c'est une vocation, pour essayer d'améliorer la vie de ces malades. Et ça doit être toute la vie durant l'inspiration.
Parlons maintenant du scandale du Mediator. Ce médicament a été utilisé d'une mauvaise façon et les gens ne savaient pas qu'il pouvait rendre très malade. Quelles parties du corps sont attaquées par le Mediator ?
La partie du corps qui est attaquée par le médiator, c'est le poumon. Au niveau de ces vaisseaux. Hein, le poumon, c'est une sorte de station-service qui va distribuer de l'oxygène dans le sang. Hein. Quand on respire, on aspire de l'air avec de l'oxygène. Cet air, il arrive dans les poumons. Et au niveau du poumon, il y a des vaisseaux sanguins qui arrivent, des globules rouges qui sont dans ces vaisseaux et qui captent de l'oxygène. Et puis ensuite, cet oxygène, il est renvoyé partout grâce au cœur. Il y a une pompe, qui est la pompe cardiaque, et qui renvoie ce sang plein d'oxygène, qui va le distribuer partout. Et c'est comme ça qu'on réfléchit, c'est comme ça qu'on court, c'est comme ça qu'on parle, c'est comme ça qu'on mange. C'est parce qu'on a en permanence de l'oxygène qui nous donne cette énergie. Si vous essayez de retenir votre respiration, hein, bah vous n'allez pas tenir longtemps. Hein ? Si on se bouche le nez et qu'on ferme la bouche, au bout de quelques minutes, il faut qu'on ait de l'air. Donc c'est vraiment complètement vital, le souffle. Et le médiator, il s'attaque sur deux choses. Les vaisseaux du poumon, il les bouche. Donc quand les vaisseaux du poumon sont bouchés, ben, le sang ne circule pas. Et du coup, on est très essoufflé. Et il s'attaque aussi au poumon, au cœur. Alors là, je vous ai amené un petit cœur. Qui est un cœur en plastique qu'on peut ouvrir. C'est une pompe, hein, c'est un moteur, un cœur. Et quand on l'ouvre, à l'intérieur, il y a des cavités cardiaques. Et alors là, c'est évidemment, c'est en plastique, hein, donc on ne peut pas le faire fonctionner. Mais en fait, il faut imaginer que dans ce cœur, le sang circule. Il est éjecté du cœur pour circuler dans le poumon et se recharger en oxygène. Il revient au cœur et après, il est éjecté pour aller partout dans le corps distribuer cet oxygène. C'est logique. Donc il faut que ce cœur il marche super bien. Et il faut que le sang aille toujours dans le même sens. Et pour ça, au niveau des cavités du cœur, il y a des valves qui s'ouvrent quand le sang passe et qui se ferment de façon hermétique pour que le sang ne reflue pas. Et bien le médiator, il s'attaque aux valves du cœur. Il les abîme, elles se rétractent. Elles ne peuvent plus jouer leur rôle. Et quand le cœur fait un effort pour éjecter le sang, eh ben le sang éjecté reflue. Et il asphyxie le cœur. Il n'arrive plus. Vous voyez, vous poussez quelque chose pour le sortir et hop, ça revient. Et il n'y arrive pas. Donc c'est très grave. Ça donne une insuffisance cardiaque. Et là encore, les gens ne peuvent plus respirer et peuvent en mourir. Voilà comment le médiator s'attaque au cœur.
Combien de temps avez-vous mis pour trouver la relation entre le médiator et les maladies qu'il causait?
Alors, exactement, je dirais deux ans et demi. C'est-à-dire que j'ai vu une malade qui souffrait du rétrécissement des vaisseaux du poumon. On était en février 2007 et elle était traitée avec du médiator. Et je me suis demandé si le médiator n'avait pas un petit rôle à jouer dans cette maladie. Donc ça, c'est le début de mon enquête. Et j'ai eu la certitude de cela en 2009, après avoir étudié d'autres malades, après avoir étudié des malades aussi atteints du cœur, et après avoir fait des croisements entre ces malades et leur consommation de médiator. Donc il m'a fallu faire ce qu'on appelle une étude et des études scientifiques pour, à partir d'une impression, le confirmer en voyant que pour tous les malades, c'était un peu la même chose et que ça concernait ceux qui avaient consommé du médiator, alors que ceux qui n'en avaient pas consommé, eux, n'avaient pas ces problèmes-là. Donc voilà, il faut vraiment avoir des arguments pour cette démonstration.
Pourquoi vous êtes-vous intéressé au cœur alors que vous êtes pneumologue?
Alors ça, c'est une super bonne question. Alors déjà, vous avez compris que le poumon et le cœur, ils travaillent ensemble, en fait, hein, puisque l'oxygène que va attraper le sang au niveau du poumon, il faut ensuite que le cœur l'envoie partout. Et quand les vaisseaux du poumon se bouchent, en fait, ça a une influence sur le travail du cœur. Et donc, moi, je travaille avec des cardiologues. C'est-à-dire que, d'abord, vous savez que les poumons et le cœur, ils sont dans la cage thoracique, hein, ils sont vraiment voisins, ils travaillent côte à côte. Et bien nous, c'est pareil à l'hôpital. Moi, je suis voisine de mes collègues cardiologues. Et quand j'ai des malades qui ont des problèmes de poumons, bien souvent, je vais voir mes collègues cardiologues en disant « il y a le cœur qui ne va pas bien non plus ». Et on travaille ensemble. Et c'est comme ça que mes collègues cardiologues, notamment le docteur Yannick Jobic et le docteur Yves Etienne, quand ils m'ont entendu parler de mes doutes sur le Mediator, ils se sont aussi posé les mêmes questions pour le cœur. Et ensuite, ils m'ont téléphoné, ils m'ont dit « Mais dis donc Irène, on a l'impression qu'on a aussi, nous, des attaques, des valves du cœur ». Et peut-être que c'est le Mediator, on trouve ça bizarre. Et c'est en travaillant ensemble qu'on a démontré que ça attaquait et le poumon et le cœur. On travaille ensemble en fait, toujours.
Quel ingrédient est mauvais dans le Mediator ?
Ah, super question encore ! Bravo ! Vous avez vraiment les bonnes questions, hein. Vous êtes prêts à faire des enquêtes. Alors le Mediator, effectivement, le nom, ça ne veut rien dire, on ne sait pas ce que c'est. Donc il a fallu que je découvre ce que c'était que le Mediator. Et le Mediator, je me suis aperçue en fait que c'était une molécule chimique qui dérivait d'un produit qui s'appelle l'amphétamine. L'amphétamine, c'est un produit qui est très dopant, un peu une drogue, et en plus qui fait maigrir. Quand on mange de l'amphétamine, on se sent super intelligent, on dort plus, on mange plus, on perd du poids. Et d'ailleurs, ça a été interdit parce que les gens qui en consommaient finissaient par devenir un peu zinzin et un peu dépendants, comme voilà, c'est le problème des drogues. Donc c'est une drogue, l'amphétamine. Mais comme ça fait maigrir, il y a des laboratoires pharmaceutiques qui ont dit bah, peut-être qu'on peut faire quand même des amphétamines qui sont moins toxiques et qui pourraient faire maigrir. Et c'est comme ça que le Mediator a été fabriqué. C'est à partir de l'amphétamine, en rajoutant comme un Lego des bouts de molécules. Et ça a été commercialisé en disant, bah, puisque ça fait maigrir, ça doit marcher sur le diabète. Sauf qu'il y avait une embrouille. Parce que comme le laboratoire savait que ça dérivait de l'amphétamine, et que l'amphétamine, je vous ai dit, on savait que c'était dangereux déjà, et ben, il a dit que c'était pas de l'amphétamine. Il a commencé à mentir, tout de suite. En disant, ben moi, mon Mediator, ça n'a rien à voir avec de l'amphétamine. Et puis, au fil du temps, il a menti de plus en plus. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu, et il s'est aperçu que le Mediator était dangereux, et plus ça allait, plus il cachait les choses. Et ce qui fait que quand moi, je me suis intéressée au Mediator, j'avais très peu d'informations, et quand j'ai interrogé le laboratoire, eh ben, il m'a raconté des sornettes. Des mensonges. Il m'a dit que ça n'avait rien à voir avec l'amphétamine, que c'était très bien toléré. Et alors là, je me suis dit, oh, bah peut-être que je me suis trompée, ça ne doit pas être vrai. Et du coup, il a fallu que je trouve qu'est-ce que c'était la molécule du Mediator. Ta question, c'est quoi le Mediator ? Et j'ai fini par trouver, je vous ai amené aussi avec moi une molécule, j'ai fini par trouver à quoi ça ressemblait, quelle molécule c'était, et qu'en fait, c'était presque comme de l'amphétamine. Et là, je me suis dit, bah, le laboratoire ment, et peut-être qu'il cache plein de choses, et que plein de gens sont malades à cause du Mediator, et qu'on ne le sait pas. Et là, vraiment, ça m'a fait très très peur.
Est-ce que cela a été dur de prouver les dangerosités du médicament ?
Oui, ça n'a pas été très facile, parce que c'était caché. C'est ça qui est incroyable, tu vois, normalement, quand on est médecin ou quand on est un laboratoire pharmaceutique et qu'on vend des médicaments, évidemment, il faut que tout le monde soit informé de ce qu'est le médicament, de ses bénéfices et de ses risques. Et là, tout était caché, donc il fallait que moi, je trouve, en fait, comme un enquêteur, comme un inspecteur de la police. Et donc, il a fallu que je, avec mes collègues cardiologues, qu'on retrouve des malades, qu'on les étudie chacun les uns après les autres. Ils avaient des opérations sur les valves, donc moi j'allais voir les chirurgiens cardiaques pour étudier les valves. Et donc il m'a fallu pratiquement 2 ans pour prouver la dangerosité du Mediator. Mais surtout parce que les indices étaient cachés. C'est comme un puzzle, sauf que les pièces du puzzle sont cachées et il faut les trouver.
Avez-vous essayé de trouver un remède contre le Mediator ?
Un remède contre le Mediator, ben le meilleur remède, c'est de ne pas en prendre. Tout simplement parce que le Mediator donne des maladies qui obligent effectivement à traiter, à opérer. Enfin, pour corriger ces maladies du Mediator, il faut des opérations chirurgicales très difficiles. Et quelquefois, ça ne suffit pas et les gens meurent. Et comme le Mediator n'est pas un médicament intéressant par ailleurs, eh bien le plus simple, c'était de le supprimer. Et donc, j'ai obtenu qu'il soit interdit. À partir de fin 2009, j'ai commencé à suspecter qu'il était dangereux début 2007 et j'ai d'une certaine façon obligé les agences du médicament françaises à retirer ce médicament fin 2009. Mais c'était long, c'était long. Et moi, ça me rendait malade parce que je me disais, ben, y a encore des gens qui prennent du Mediator et peut-être qu'ils vont être malades.
Quels sont les obstacles que vous avez rencontrés pour faire reconnaître le médiateur comme dangereux ?
Alors, premier obstacle, c'est ce que je vous ai dit, c'était les mensonges, en fait. Quand j'ai voulu me renseigner auprès du laboratoire qui commercialise, eh ben, les lettres et les explications que j'ai reçues étaient mensongères. Et donc, c'était très difficile parce que ça me paraissait absolument impossible qu'on me mente comme ça. C'est criminel, en fait. Donc après, il a fallu que je trouve des informations autrement. Et pour ça, j'ai dû trouver des personnes qui puissent me renseigner, mais pas celles du laboratoire. Donc j'avais, par exemple, un médecin à l'hôpital de Brest qui était chargé de la surveillance des médicaments, le docteur Carlan, qui surveille les médicaments, qui surveille leur toxicité. Et je lui dis, bah, Dominique, est-ce que tu peux m'aider ? Qu'est-ce que c'est que le médiateur ? Parce que moi, je ne comprends pas avec les réponses du laboratoire. Et elle m'a trouvé des documents qui me mettaient un peu sur la piste, notamment de l'amphétamine. Et puis, j'ai aussi écrit à une revue médicale qui est très forte pour critiquer les médicaments, qui s'appelle la revue Prescrire. Et je leur ai envoyé un mail en leur disant ce que vous pouvez m'aider, parce que j'arrive pas à savoir ce que c'est que le médiateur. Et ils m'ont envoyé des articles et des éléments. Et petit à petit, j'avais comme ça des documents qui me permettaient de comprendre ce que c'était que le médiateur et parallèlement d'enquêter en prenant des malades sous médiateur qui avaient des atteintes des valves du cœur ou qui avaient des problèmes pulmonaires. Donc ça a été long tout ça.
Pourquoi le combat au tribunal a été long et compliqué ?
Alors donc, le médiateur est retiré fin 2009. Et puis, tout retombe à l'eau, c'est-à-dire que personne ne dit qu'il y a eu un très gros problème et qu'il faut peut-être s'intéresser à ce qu'a fait le laboratoire, à ses mensonges, et puis à ce que sont devenues ses victimes. Où sont les victimes du médiateur ? Est-ce qu'il faut les aider ? Parce que souvent, ce sont des opérations, soit qui vous tuent, soit qui vous rendent très malade, vous ne pouvez plus travailler, vous ne gagnez plus d'argent, et vous êtes dans des situations de handicap très difficiles. Et moi, c'est ce que je voyais avec les malades dont je m'occupais. Et donc, pour toutes ces raisons-là, je me suis dit, bah, c'est bien gentil, on a retiré le médiateur, mais ça ne suffit pas. Il faut quand même retrouver les victimes, il faut leur donner de l'argent, ce qu'on appelle les indemnisations, pour les aider à se soigner et à mieux vivre. Et puis, il faut aussi que ce laboratoire, si ce qu'il a fait, ce sont des mensonges et des crimes, il faut qu'il soit condamné, ça n'est pas possible. Alors, toutes ces questions m'ont beaucoup agitée, et finalement, je me suis dit, ben, je vais témoigner, et c'est là où j'ai écrit un livre pour dénoncer, raconter cette enquête, et que tout le monde se rende compte qu'il y a certes, un médicament dangereux, mais que cette dangerosité, elle était connue par le laboratoire et cachée. Alors, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, effectivement, la justice, c'est-à-dire ce qu'on appelle d'abord des gendarmes, puis des juges, ont ouvert des enquêtes, exactement comme quand il y a un meurtre ou un crime, on ouvre des enquêtes et on fait des perquisitions, c'est-à-dire qu'on envoie des gendarmes, par exemple, dans les locaux du laboratoire pour saisir des documents et voir si ces mensonges-là étaient répétés, comment ils ont été préparés, etc. Donc c'est un très très gros travail qui a été fait par un bataillon de gendarmerie de 7 à 10 gendarmes qui ont travaillé pendant 2 à 3 ans pour enquêter partout, auditionner, mettre sur écoute, mettre ce qu'on appelle les gens en garde à vue, c'est-à-dire qu'on prend des suspects, et puis on les bloque, et puis on leur dit « mais qu'est-ce que vous avez raconté ? Qu'est-ce que vous avez fait ?» etc. Donc ça prend beaucoup de temps. Et ça, ça a pris plusieurs années, parce que quand il y a une enquête comme ça, eh bien les gens qui sont suspectés d'avoir fait ces crimes, ils prennent des avocats pour dire « ah mais non, c'est pas vrai, j'ai pas fait ça, Madame Frachon raconte des bêtises, les gendarmes n'ont pas bien fait leur travail ». Ils critiquent le travail pour dire qu'en fait ils sont innocents et qu'on les accuse à tort. Donc tout ceci prend beaucoup de temps et c'est normal parce qu'on peut pas accuser les gens à tort, il faut qu'ils puissent se défendre. Ça c'est le travail des avocats. Et dans l'affaire du médiateur, comme le laboratoire en question est un laboratoire très riche, eh ben il peut embaucher beaucoup d'avocats et il peut vraiment gêner l'enquête et faire valoir tout le temps des contestations. Et comme les juges et les enquêteurs doivent répondre à chaque fois à ces contestations, ça peut durer très très longtemps. Et là, ça a duré des années, puisque les enquêtes ont été ouvertes en 2011 et que le procès a été ouvert en 2019. Hein ? Donc il a fallu des années pour que le procès puisse se tenir dans la mesure où il fallait que les juges et ceux qui accusent répondent aux arguments des avocats du laboratoire ou des gens mis en cause qui disaient bah, nous on est innocents et d'ailleurs et qui avaient des arguments, il fallait montrer que c'était pas vrai, que c'était des mensonges, etc. On appelle ça le contradictoire. Et ça a duré trop longtemps, hein, à mon goût, parce que pendant ce temps-là, les victimes étaient très désespérées. Il y en a qui sont mortes pendant ces années-là. Et donc, c'était humainement très, très difficile.
Est-ce que c'était stressant ?
Très. En fait, c'était horriblement stressant parce que... Alors, j'avais pas peur qu'on m'assassine, hein, je tiens à le dire. Je me suis dit, je ne suis pas en Russie, voilà, ou dans des pays de dictature où les opposants sont exécutés. Parce qu'il y a des pays où si vous faites ça, vous êtes en danger de mort. Heureusement, je me suis dit, non, la France, quand même, il ne faut pas exagérer, quoi. Vous êtes d'accord ?
Oui. Ouais. Voilà. Oui.
Et il faut vraiment se dire, non, je suis dans un pays de droit, une démocratie, et j'ai le droit de dire quand ça ne va pas. Donc c'est ce que je me suis dit. Mais je me suis dit... Oui, mais il faut que je sois sûre de moi. Donc il faut bien que j'ai mes preuves et que je sois bien... Il ne faut pas que je lance comme ça des rumeurs. Il faut vraiment que j'ai des preuves pour affirmer ce que je dis. Mais malgré ça, j'étais hyper stressée parce que ben, c'est vrai que le fait de dénoncer cette histoire-là fait que des gens ont été condamnés à de la prison, que le laboratoire est condamné à des amendes finalement très très fortes, que tout ça met en cause. L'agence du médicament a été condamnée, enfin il y a eu beaucoup de condamnations. Et donc, quand vous êtes un peu à la cause de ça, eh ben, les gens essayent quand même de dire du mal de vous, de dire que vous faites ça pour vous rendre intéressante, que ce que vous dites c'est pas juste, que c'est mal fait, que vos études elles valent rien, que vous vous prenez pour je sais pas quoi. Et donc c'est pas le livre que j'ai publié a été condamné d'abord en justice. Enfin voilà, il y a eu plein d'attaques, pas des attaques contre mon physique, j'ai pas été menacée de mort du tout, mais par contre c'était très pénible. Antérieurement, il y avait des médecins qui avaient déjà dénoncé des produits du laboratoire Servier et qui avaient reçu des menaces de mort. Donc, c'est vraiment pas des rigolos, les gens du laboratoire Servier, et c'est honteux.
Y a-t-il eu des moments où vous avez douté ?
Oui, beaucoup. Alors, de quoi est-ce que j'ai douté ? D'abord, est-ce que c'était bien de faire cette dénonciation ? Est-ce que je ne pouvais pas me contenter d'avoir fait retirer le médiator et de me dire, bon, ben, maintenant, il n'y aura pas de nouvelles victimes ? Et après tout, c'est bien, et puis les autres, ils n'ont qu'à se débrouiller. Mais vous voyez, c'est pas très cool quoi, de dire, les autres, ils se débrouillent. Et donc là, je me suis dit, non, je ne peux pas les laisser se débrouiller, surtout que franchement, les avocats du laboratoire ne sont pas sympas. Et donc, il faut que je les aide, parce que j'ai des preuves. Et donc, ça a un petit peu... j'avais des doutes et des craintes, mais je me suis dit, mais en fait, je n'ai pas tellement le droit de ne pas témoigner dans la mesure où j'ai des preuves. Hein. Et ça, c'est une question un peu générale. Quand on assiste à un crime, qu'on est ce qu'on appelle témoin de quelque chose qui se passe et qui est très criminel, et bien quelquefois on peut avoir peur d'aller témoigner parce qu'on se dit, ben évidemment mon témoignage, il va faire que les criminels seront peut-être démasqués, seront peut-être condamnés, et ils vont beaucoup m'en vouloir. Mais heureusement, on est dans un pays où il faut, malgré ses doutes ou malgré ses craintes, il faut aller témoigner quand on est sûr de ce qu'on a vu et qu'on a les preuves, voilà. Il faut le faire calmement, il faut le faire avec des éléments de preuve. Il ne s'agit pas d'injurier et d'insulter, mais il faut dire les choses.
Quels sont les enseignements les plus importants que vous avez tirés de votre expérience avec le scandale du médiator ?
Alors, peut-être que l'expérience la plus importante, c'est que d'abord, eh ben, dans notre société, il y a des voleurs, il y a des criminels, il y a des escrocs, il y a des gens bien. Alors, ce n'est pas une nouveauté. Hein. Quand on lit des histoires, on sait très bien qu'il peut y avoir des voleurs, qu'il peut y avoir des méchants, et puis qu'il peut y avoir des gens, au contraire, qui sont gentils et qui essayent d'aider les autres et d'aider la société à aller mieux. Et je me suis aperçue que je ne pouvais pas faire les choses toute seule et qu'il fallait que je puisse compter sur des gens. Et en fait, peut-être que la plus belle histoire, c'est que tout au long de cette histoire-là, il y a des gens qui ont pris des risques et qui m'ont dit « Oui, ce que tu racontes, c'est pas possible et moi, je peux t'aider, je vais t'aider, même si c'est difficile. » Donc, pouvoir compter sur l'aide de personnes, des médecins, des citoyens, des avocats qui vous disent « moi j'y vais avec toi, c'est génial ». Après, ce qui est moins génial, c'est d'avoir en face de soi des gens qui sont pas bien et qui sont criminels. Ça, c'est dur. Donc, c'est un peu sur la nature humaine, finalement.
Quel sentiment cela vous a-t-il fait de dénoncer le médiateur ?
J'ai surtout eu l'impression que je faisais ce que je devais faire. C'est-à-dire que, comme j'avais des éléments de preuve, je me suis dit, de toute façon, il faut que je le dise et il faut que je le défende parce que je suis certaine que si je ne le fais pas, toutes les victimes du médiator n'auront droit, ne seront pas reconnues, n'auront pas d'indemnisation et que leur vie sera plus difficile. Et donc, c'est quand même un sentiment très agréable, si je puis dire, parce que si, par exemple, vous entendez parler des migrants qui se noient dans la Méditerranée, vous êtes désespéré et en plus, vous savez pas très bien quoi faire, franchement. Ou alors, si vous entendez parler de la guerre en Ukraine, malheureusement, de la guerre un peu partout dans le monde, vous savez qu'il y a des innocents et des gens qui souffrent, qui sont tués par des bombes. Puis là, vous êtes là un peu ballot à vous dire, mais moi, qu'est-ce que je peux faire, quoi ? Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle un peu un sentiment d'impuissance par rapport à des malheurs du monde. Et bien là, ce malheur-là, le malheur du médiator, et bien moi je pouvais faire quelque chose. C'est-à-dire que j'avais avec moi des preuves qui permettaient d'accuser, certes, mais que la justice effectivement le reconnaisse et que des gens soient indemnisés et reconnus. J'ai le souvenir par exemple d'une jeune fille qui était victime du médiator. Et elle ne pouvait plus faire son métier, elle était coiffeuse, elle ne pouvait plus faire son métier, elle ne pouvait plus rien faire. Elle habitait chez ses parents, dans une toute petite maison, et ses parents étaient très inquiets en se disant « mais qu'est-ce qu'elle va devenir ?» Et on s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup battu pour qu'elle soit reconnue. Et finalement, elle a été indemnisée. Avec cette indemnisation, elle a pu s'acheter une jolie maison où elle habite avec ses parents, où il y a une petite piscine qu'elle aime bien parce qu'elle peut aller se baigner et ça la détend quand elle est malade. Alors, ça ne l'a pas guérie, mais elle vit mieux. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien.
En 2016, le film La fuite de Brest a raconté votre histoire. Saviez-vous qu'un film allait être fait sur vous? Et qu'est-ce que cela vous a fait?
Alors, quand j'ai publié le livre qui raconte cette histoire, très vite, il y a des gens du cinéma qui m'ont dit c'est une super histoire et nous, on en voudrait la raconter au cinéma. Alors je me suis dit, oh là là, raconter une histoire comme ça au cinéma, où il y a aussi ma personne dedans et tout, c'est compliqué. Et puis après j'ai réfléchi et je me suis dit, mais le cinéma en fait c'est bien, parce que ça peut raconter des histoires et faire que les gens sont touchés par cette histoire, la comprennent. Là aujourd'hui je suis avec vous et puis on échange, on se raconte des histoires, mais finalement ça c'est, on raconte des histoires à plein de gens au cinéma. Donc j'ai trouvé que c'était une super idée. Mais simplement, il fallait trouver, être sûr que le cinéaste ou la cinéaste joue vraiment, fasse un film qui soit vrai, qui soit proche de la vérité, de la réalité, que ça rende hommage aux victimes dignement. Enfin, il y avait des conditions pour que ce film soit, me plaise en fait, et soit, rende compte de cette catastrophe en fait, de manière à la fois. Qu'on ait envie de regarder et en même temps qui raconte vraiment l'histoire. Donc ça, c'était ça mes plus grandes questions. Et j'ai été rassurée quand j'ai rencontré la cinéaste Emmanuelle Berco, parce que son père était chirurgien cardiaque, qu'elle savait déjà un petit peu de quoi on parlait, et puis qu'elle aime bien faire un cinéma, ce qu'on appelle le vérité, c'est-à-dire un cinéma qui raconte vraiment, qui enjolive pas. Et par exemple, on voit dans le film une opération à cœur ouvert, comme ça se passe, et elle l'a très bien fait techniquement. Et puis on voit aussi des victimes qui témoignent. Et puis on raconte ce combat un petit peu comme un roman policier. Hein. Moi j'ai fait une enquête, c'était absolument incroyable. J'avais l'impression d'être l'inspecteur Colombo. Hein. C'était vraiment... peut-être que vous ne connaissez pas Colombo. Qui seraient les inspecteurs Vas-y.
Gadget. Inspecteur
voilà.
Gadget.
Allez, inspecteur Gadget.
Ah, moi, super. Plutôt que ça serait inspecteur Barnaby.
Sherlock Holmes. Voilà, chacun peut imaginer ces enquêtes un peu policières qu'on voit aussi à la télé ou dans des bandes dessinées. Moi, tout à coup, j'étais un peu comme ça. Et c'était quand même super bizarre. Mais c'est vrai que ça rend bien au cinéma, tout ça. Et donc, je me suis dit, c'est une bonne idée parce que ça va un petit peu informer les gens sur l'affaire du médiator. Et puis alors, je vais vous faire un aveu. À votre avis, qui était très content qu'on tourne un film sur cette histoire ?
Toi ?
Non, alors moi, je trouvais ça marrant. Mais bon, voilà, mais surtout, mes enfants.
Ah.
Alors, mes enfants, ils en avaient marre de l'histoire du médiator, parce que c'était justement un peu stressant, que moi j'étais pas souvent là, que j'étais super énervée, que j'étais super inquiète, que, enfin vous voyez, je comprenais pas, voilà, tout ça c'était difficile. Et puis j'ai quatre enfants, et ma petite dernière qui avait 7 ans, moi je l'oubliais à l'école, je l'oubliais à la gym, bah ouais, c'était parce que j'étais tellement préoccupée que je l'oubliais partout. Elle en avait ras-le-bol, et franchement il fallait pas lui parler du médiator, elle partait en claquant la porte et en disant j'en ai marre du médiator. Et puis quand il y a eu le tournage du film à l'hôpital de Brest et que sont arrivés des cinéastes, des acteurs et tout, alors là les enfants ils ont trouvé ça génial parce qu'ils avaient le droit d'y aller et d'y assister, et donc ils ont trouvé que c'était quand même super chouette de voir le tournage d'un film et d'avoir la possibilité d'y assister pendant que ça s'est fait. Et ils ont eu un très bon contact avec toute l'équipe de tournage. Ils ont appris plein de choses et ils étaient super contents. Ça vous aurait plu aussi ?
Oui.
Voilà.
Vous sentez-vous à l'aise avec toutes les questions qu'on vous pose tout le temps ?
Alors, aujourd'hui, ça me fait super plaisir de répondre à vos questions. Quelquefois, j'ai l'impression que je me répète. Mais là, avec vous, c'est différent parce que j'ai l'impression que vos questions, elles sont importantes et puis qu'on compte sur vous pour l'avenir. Donc, quand c'est des enfants qui me posent des questions, je me dis, ben, c'est super bien qu'ils soient un peu informés de ces histoires-là parce que dans leur vie d'adulte, dans les métiers qu'ils choisiront, ils y penseront peut-être quand il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne leur paraît pas normal. Ils se rappelleront peut-être que c'est possible de le dénoncer, mais je vous rappelle, avec des précautions, avec des enquêtes sérieuses, voilà, il ne faut pas se lancer dans ce qu'on appelle la rumeur. Hein. Vous avez peut-être entendu parler des gens qui racontent un peu n'importe quoi sur Internet. Ça, c'est vraiment un problème, hein, qu'on appelle les fausses nouvelles, les fake news et tout. Et il y a des choses à dire qui sont importantes, mais ces choses-là, il faut les démontrer. Hein. Et moi, je suis drôlement contente de venir vous en parler aujourd'hui. Et puis, je pense que c'est important que vous ayez une petite formation par rapport à la question des médicaments. On peut être critique aussi vis-à-vis des médicaments. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir peur de tout. Mais les médicaments, ils peuvent être très positifs. Ils peuvent avoir des effets secondaires. Et tout ça nécessite, voilà, de garder ce qu'on appelle un esprit critique.
Est-ce que l'affaire du médiateur est totalement terminée ?
Eh ben non. Alors, elle est quand même pas mal terminée et je suis super contente parce qu'il y a eu un premier procès en 2019 avec une condamnation en 2021. Mais vraiment, c'était pas génial. Le laboratoire, je trouvais qu'il s'en sortait très bien et qu'il était vraiment pas génial. Et ça lui coûtait pas beaucoup d'argent. Il était vraiment très peu condamné. Et je me suis dit, mais c'est quand même incroyable parce qu'il y a eu des milliers de morts. Et puis, il y a plein de gens qui sont très malades du cœur, qui ont été opérés. Et eux, ils ont à payer pas grand-chose et hop, même pas de prison ferme, rien du tout. Donc vraiment, j'étais indignée. Et heureusement, il y a eu un deuxième procès, parce que les juges, en fait, ce qu'on appelle les procureurs aussi, ils trouvaient que c'était pas bien et que le jugement était pas bon. Et donc, ils ont fait appel. Et il y a eu un deuxième procès qui s'est tenu en 2023 contre le laboratoire Servier. Et alors là, ça a été très différent. Et on a eu une condamnation du laboratoire en décembre dernier. Et cette condamnation, elle est sévère. Enfin, ils sont vraiment coupables, super coupables, ça leur coûte très cher, et il y a même un de leurs anciens dirigeants qui va aller en prison. Donc tout ça, c'est très important. Mais malgré tout, l'affaire n'est pas terminée, parce qu'il y a encore plein de victimes qu'on continue à indemniser, à accompagner, et ça va encore durer des années et des années, l'accompagnement de ces victimes.
Pensez-vous que d'autres laboratoires qui font les médicaments peuvent mentir, et comment savoir lesquels sont sûrs ?
Ah, alors ça, c'est une sacrée question que je me pose depuis plus de 10 ans. Je pense que l'affaire du médiator, elle est assez exceptionnelle. Mentir à ce point-là, c'est juste incroyable. Oser dire qu'une molécule qui est en fait de l'amphétamine n'en est pas, c'est juste incroyable. Donc, de ce point de vue-là, c'est une histoire, je pense, heureusement, très rare. Mais malgré tout, je me suis aperçue que les laboratoires cherchaient à gagner beaucoup d'argent et qu'ils étaient prêts, quelquefois, à prendre des risques, voire à mentir un peu, on va dire, pour garder leurs bénéfices. Donc, je me suis dit, Il faut savoir que dans tous les domaines de la vie, quand il s'agit de gagner de l'argent ou beaucoup d'argent, il peut y avoir des comportements qui sont criminels ou des mensonges, y compris dans le domaine de la santé. Et il ne faut surtout pas se dire que c'est vrai partout pour tout le monde. Hein. Mais c'est toujours une possibilité. Et donc, il faut rester critique. Et en particulier, il faut savoir que les motivations d'argent sont des motivations qui, quelquefois, privilégient plutôt l'intérêt des laboratoires. Et voilà. Donc moi, je prescris beaucoup de médicaments, beaucoup. Des médicaments qui ont des effets secondaires. Mais quelquefois, quand ça marche super bien, on est super content. Hein, et ce sont des médicaments qui sont sérieusement étudiés et sérieusement commercialisés. C'est l'immense majorité. Mais dans un petit pourcentage de cas, il peut y avoir ce qu'on appelle des transgressions, voire ce qu'on appelle des délits, hein, ou des crimes, ou des mensonges.
Merci beaucoup à notre invité Irène Frachon. Nous espérons que vous avez appris de nombreuses choses et nous vous donnons rendez-vous dans un mois pour une nouvelle émission. Au revoir.
Au revoir.